Je me souviens de cette phrase, on s'était dit, si on pousse le curseur, ça s'arrête tout, le vivant. Et à un moment, qui va venir, quoi? Et donc, on s'est dit, ok, bah là, on va essayer de se donner un cadre. On s'est dit, bah ok, alors si on met maintenant une mare, c'est cool. Si on en met une à l'hectare, ça veut dire on met 20 mares. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on peut le faire? Comment est-ce qu'on le fait?
On organise déjà des visites mensuelles de fermes. Ça, c'est un peu la base de l'asso. On se retrouve une fois par mois sur une des fermes du réseau. C'est des visites qui sont très informelles. Le paysan, en gros, l'organise un peu comme il le veut. Ça peut être les week-ends, ça peut être en semaine. On s'assure tout le temps qu'il y ait des naturalistes qui soient présents lors de ces visites.
Je me suis dit, j'ai moyen de m'installer et de faire de la préservation de la nature et de lier les deux en fait. Les deux choses qui me font vibrer depuis que je suis enfant, la préservation de la nature et l'agriculture, ça marche ensemble.
Et donc l'idée de paysan de nature, c'est de se dire finalement on est dans un contexte qui est sombre, comme dit Baptiste, mais qui est aussi hyper favorable à l'installation de gens pour qui la protection de la nature est un vrai sujet de préoccupation et une des préoccupations centrales du métier de paysan, et donc de comment faire revenir le vivant dans les fermes et comment renaturer les espaces agricoles plutôt que de créer des espaces de réensauvagement à côté.
Dans la première partie de ce reportage, pendant les rencontres des fermes sauvages, nous sommes allés aux racines, notamment dromoises, de ce projet de réunir des paysans et paysannes, des naturalistes et plein d'autres humains en tout genre autour d'une même ferme intention. Dans cette deuxième partie, nous allons voir comment s'organise ce réseau mycélien d'humains qui souhaitent que la ferme soit un lieu hospitalier pour l'ensemble du vivant. Sauvages, domestiqués et tout ce qui se situe entre ces deux polarités. Comment créer un groupe local? Comment s'organiser? Quels sont les ingrédients qui font que ces groupes fonctionnent? Nous partons à la rencontre de l'association Paysans de Nature et des fermes de ce réseau. On va découvrir comment s'est structuré un groupe local, l'association des fermes paysannes et sauvages, dans la Drôme, et l'importance de mesurer l'impact de certaines pratiques à travers le projet Réensauvager la ferme.
D'où vient Paysan de Nature? Ça vient d'expériences personnelles qui étaient des chargés de mission naturalistes dans leur ancienne vie ou autres. Hein, ça peut être des animateurs Natura 2000, des chargés de mission syndicats et qui se sont dit, mais en fait, une des façons de protéger la nature, c'est de devenir paysan et en plus, ça permet de nourrir des gens.
Perrine Dulac nous présente les quatre piliers de Paysans de Nature. Sur le site de l'association, on peut lire que l'objectif de Paysans de Nature est de multiplier les espaces dédiés à la conservation des espèces sauvages en contribuant à installer des paysans et paysannes, acteurs de la défense de la vie sauvage, en s'appuyant sur les politiques agricoles et environnementales existantes, avec une gouvernance territoriale et en lien avec les habitantes et habitants des territoires.
Donc la première idée de Paysan Nature, c'était de fédérer ces gens-là qui avaient besoin de se parler. Et l'autre origine de Paysan Nature, c'est qu'elle vient du triple constat, donc le déclin de la biodiversité, je ne vais pas vous refaire le schéma, tout le monde est au courant. Le déclin de la population agricole, c'est un peu pareil. Hein. Moi j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on dit que d'ici 10 ans, la moitié des paysans vont partir à la retraite et ne seront pas remplacés, donc je ne sais pas combien de fois on va reproduire ces 10 années. Et aussi, deux autres constats qui sont des attentes quand même de la société qui, actuellement, c'est peut-être un peu moins vrai, mais qui vont quand même vers des produits locaux et soucieux de la nature. Et un vivier de jeunes qui sont formés au métier de l'écologie, de l'agroécologie et de l'agronomie, et qui ne seront pas tous conservateurs de réserves naturelles ou ingénieurs agro. Et parmi ces jeunes-là, il y en a plein, en fait, qui sont tentés par les expériences paysannes. Et donc, l'idée de Paysan de Nature, c'est de se dire, finalement, on est dans un contexte qui est sombre, comme dit Baptiste, mais qui est aussi hyper favorable à l'installation de gens pour qui la protection de la nature est un vrai sujet de préoccupation et une des préoccupations centrales du métier de paysan, et donc de comment faire revenir le vivant dans les fermes et comment renaturer les espaces agricoles plutôt que de créer des espaces de réensauvagement à côté. Ça, c'est un peu le pilier politique de Paysans de Nature. Défendre le sauvage, évidemment, c'est le point central de Paysans de Nature, autant que défendre la paysannerie. Donc, c'est s'interroger sur nos, ce qu'a dit Baptiste, sur nos rapports et nos alliances avec le vivant et sur nos incompréhensions de ce qui se passe dans la nature. Comment faire confiance à tout ça, s'appuyer dessus et finalement être dans une posture humble par rapport à tout ce qu'on a fait en agriculture extractiviste. Donc progresser ensemble sur les, non seulement sur les infra, alors en jargon les infrastructures agroécologiques, les bandes enherbées, les haies, les mares, etc., mais aussi sur les itinéraires techniques des paysans. Qu'est-ce qui fait sens dans les choix qu'ils font en termes d'utilisation du pétrole, de mécanisation? En termes d'alimentation des animaux, pour finalement être dans un modèle qui ne veut pas seulement créer des mares et des bandes enherbées, mais aussi réfléchir sur l'entièreté du système pour faire changer tout ça. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier qui est hyper important, c'est impliquer la population locale. Donc j'ai mis les locaux, mais c'est les citoyennes, les citoyens, les consommatrices, les consommateurs, les élus... naturalistes et comment faire en sorte qu'en créant des alliances avec ces gens-là, ils vont porter le message dans leur réseau propre et comment on va en faire des alliés finalement de cette renaturation paysanne. L'autre pilier, c'est travailler à l'échelle de petits territoires, parce que vous verrez qu'il y a aussi un gros volet foncier dans Paysans de Nature, c'est comment reprendre de la terre à l'agro-industrie pour installer des paysans qui placent la nature au centre de leurs préoccupations. Et en fait, si on ne travaille pas à l'échelle de petits territoires, c'est compliqué, parce que finalement, c'est à l'échelle de ces territoires, disons, de la communauté de communes, que les gens se connaissent, que les naturalistes font du terrain ensemble, que les gens consomment, et que les paysans savent quelles vont être les fermes disponibles dans les années à venir, et connaissent aussi les porteurs de projets. Et le quatrième pilier, c'est comment favoriser l'installation de ces nouveaux paysans et ces nouvelles paysannes dans ce contexte, et comment mobiliser les forces vives dans les territoires pour raconter un récit sur ce que c'est vraiment l'agriculture, ce que c'est l'agriculture qui travaille avec le vivant, et comment provoquer en fait des vocations dans un monde où la moitié des agriculteurs va partir à la retraite dans 10 ans et ne sera pas remplacé.
Moi, je suis installé dans le Pas-de-Calais, un petit village qui s'appelle Romilly, à 250 habitants. Je suis réellement en train de m'installer après un parcours à installation de 7 à 8 années. Et je m'installe producteur de PNPP et transformateur aussi justement de l'IFOFER.
PNPP, l'IFOFER.
Préparation naturelle peu préoccupante et l'IFOFER, litière forestière fermentée. Donc on est sur un écolieu nourricier et pédagogique qui a mon activité, mais il y a aussi c'est un projet collectif donc qui est porté par une asso qui s'appelle Deux Rives en Rêve. Et ma compagne, en fait, justement Audrey, elle fait du pain au levain avec des blés anciens cultivés dans la région. Il y a un atelier low-tech qui est en train de démarrer là cette année réellement. J'avais rencontré un petit peu l'initiative en fait Paysans de Nature et j'ai fait la connaissance de Seb et Elsa en fait à l'occasion d'une AG de l'atelier paysan qui s'était passé chez eux en fait. On avait fait une étape là-bas à la ferme du Grand Laval. J'avais discuté avec Elsa et Elsa m'avait dit on n'a pas vocation à se déployer au niveau national, mais pourquoi pas accompagner en fait justement. Et je suis super content d'avoir pu assister aujourd'hui quoi. Deux Rives en Rêve est déjà très très ensauvagé. Pourquoi? Parce que c'est un terrain qu'on a récupéré qui était en friche depuis 10 ans. Et du coup c'est vachement déjà sauvage et préservé. Et l'idée c'est justement de faire attention à tout en créant l'activité. Et c'est pour ça les PNPP c'est pas mal parce qu'en fait du coup je maintiens des orties, je maintiens des friches en fait quoi. Et je trouve ça vachement pertinent aussi, je vois vraiment un lien entre les deux quoi.
Moi, j'avais une question qui me turlupinait hier, c'est est-ce qu'il y a une différence entre un paysan de nature et un paysan réensauvagé ?
Je pense que fondamentalement, c'est des réseaux très proches. En fait, j'en parlais avec Baptiste tout à l'heure. Je pense que ici, le groupe local paysan de nature, c'est ferme paysanne et sauvage et le LPO, en gros. Enfin, c'est en train de se dessiner comme ça.
Et après, on a plutôt des différences de perception entre les gens même. C'est-à-dire que, y compris chez nous, ben, les gens, ils pensent pas le sauvage pareil et ils pensent pas leurs expérimentations vis-à-vis du sauvage pareil. Donc il y en a qui vont être plus dans le laisser-faire, d'autres qui vont être plus dans l'hospitalité active, d'autres qui sont en train de réfléchir à leur système agricole entier, sur comment se défaire des machines, d'autres qui vont être plus dans la densification de leur système de haies. Enfin voilà, il y a plein de profils en fait, la frontière est poreuse.
Est-ce que tu peux nous donner 2-3 exemples de fermes où tu as observé, où tu sais qu'il y a des dynamiques sauvages qui reviennent, des choses que tu as vues qui t'inspirent en fait?
Ouais, alors on a eu une grosse thématique autour de la pigriache écorcheur, qui est un oiseau qui est un peu spécialisé sur les buissons d'épineux, qui mange des coléos, alors, et qui a disparu des campagnes parce qu'on a supprimé les buissons. En gros, les buissons c'est mal, la friche c'est mal. Et en fait, le réseau des fermes là, dans le quart nord-ouest de la France, il y a eu plein de fermes où on a eu cette année des couples de pigriaches écorcheurs qui se sont installés à la faveur des buissons et des ronciers qui n'ont pas été nettoyés. Donc pour moi, c'est quand même. Enfin, la pigriache est notre emblème. Enfin, c'est l'oiseau qui est sur notre logo. Et du coup, j'ai plusieurs exemples. Mais par exemple, Martin, qui est un maraîcher éleveur de chevaux dans le Morbihan, enfin Martin et Audrey. Eux, ils ont volontairement laissé des buissons de ronces prospérer sur leur ferme. Et la réponse de pigriache a été, peut-être pas immédiate, mais elle est là. Et pour Martin, c'est hyper important parce que c'est un oiseau qui avait disparu de ce bocage. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Après, je peux te donner l'exemple du marais breton, que je connais le mieux parce que c'est là où je vis, où on a une réponse phénoménale de la barge à queue noire, qui est un oiseau d'eau qui est en voie d'extinction en Europe, où il y a moins 75% des effectifs en 30 ans. Et qui chez nous se porte bien et notamment dans les fermes du réseau voit ses effectifs augmenter. Donc ça c'est le deuxième exemple. Et après, je pourrais te donner aussi l'exemple de Julien et Audrey qui cultivent des plantes aromatiques et médicinales en Corrèze. Et eux ils ont repris des hectares récemment où ils ont volontairement fait de la fauche ultra tardive. Mais quand je dis ultra tardive, c'est pas août, septembre, c'est février de l'année d'après. Pour pouvoir pailler leur culture et pour pouvoir être autonome en paillage. Mais ils ont choisi la fauche tardive, non pas pour des questions agronomiques, mais pour des questions écologiques et notamment pour des questions de survie des insectes. Parce que quand on fait des fauches tardives en juin, en fait, c'est pas du tout des fauches tardives pour les insectes, c'est des fauches précoces. C'est pas mal pour les oiseaux et encore. Et du coup, ils ont des populations de ouf, notamment en sauterelles et en criquets, qui se développent dans ces prairies parce qu'ils ont pris soin de pas couper la prairie à un moment où tous les insectes sont en train de se reproduire et de pondre soit dans le sol, soit dans l'herbe, quoi. Ben, l'exemple de Martin sur la pigrièche, l'exemple du marais breton sur la barge à queue noire, c'est parce que l'ornitho, c'est une discipline facile et tout le monde a des données là-dessus. Et le cas de Julien et Audrey, c'est parce que Julien, il est passionné de sauterelles et de criquets et que du coup, c'est par ce prisme-là aussi que lui, il a eu envie de valoriser cette expérience.
Bonjour Marie, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots?
Donc moi je suis éleveur dans le département de l'Allier depuis 2007. Je produis des brebis viande avec une coopérative, enfin de l'agneau viande pardon, avec une coopérative, et j'ai aussi un bâtiment d'engraissement de cochons hors sol. Hors sol ça veut dire que j'achète l'aliment. Voilà, ce qui me rend un peu spécifique aujourd'hui dans ce réseau finalement. Donc moi mon projet de départ quand j'ai décidé de m'installer, c'était de concrétiser mon souhait de participer à la préservation de la nature finalement. C'était ça mon point de départ. Et en fait j'avais pas mal côtoyé l'associatif, sachant que c'était un vieux rêve quand même depuis toujours de m'installer. Et voyant à un moment donné que ça allait être possible pour des raisons privées, de vie de famille et tout ça, je me suis dit, j'ai moyen de m'installer et de faire de la préservation de la nature et de lier les deux en fait. Finalement, les deux choses qui me font vibrer depuis que je suis enfant, la préservation de la nature et l'agriculture, ça marche ensemble.
Est-ce que tu peux nous donner des exemples de réensauvagements qui ont eu lieu sur ta ferme ou en tout cas d'action pour avoir une hospitalité pour le vivant, pour qu'on comprenne un petit peu mieux ce qui se passe?
Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi je me suis installé sur un domaine bocager qui est déjà à la base hyper préservé. Donc ça c'est vrai qu'on l'a évoqué ce matin. De fait, j'ai pas forcément obtenu les effets qu'on voit sur la ferme du Grand Laval par exemple, où là c'est assez spectaculaire. Il n'empêche que j'ai beaucoup rénové les mares, j'en ai aussi rajouté. Les haies étaient déjà des haies en... Moi, j'aime bien dire c'est de la libre évolution, là. C'est canalisé en linéaire, mais c'est quand même de la libre évolution. Il y a plus de libre évolution dans mes haies que dans une forêt de l'ONF, hein, faut pas l'oublier. Alors après, j'ai mis en place un travail parce que j'aime bien parler du fait qu'on peut redessiner le bocage. Ça, je l'avais évoqué ce matin. Tout n'est pas parfait. Par exemple, notamment le travail dans le sens de la pente. Donc voilà, j'ai fait un travail très simple de redécoupage de deux parcelles qui étaient contiguës et qui étaient travaillées depuis toujours dans le sens de la pente. Je les fusionne ensemble, donc ça veut dire que j'enlève 80 mètres de haies. Pour lesquelles il a fallu que je demande une autorisation à la DDT, n'est-ce pas? Et je les recoupe dans le sens de la longueur. J'enlève 80 mètres de haies, j'en plante 400, quoi. Donc c'est gagnant-gagnant. Et en fait, du coup, j'adapte en fait mon travail parce que plus que de la surface, c'est de la longueur qu'on aime dans la mécanisation. Parce que voilà, je suis mécanisé, hein, j'ai un tracteur, j'ai une faucheuse, etc. Bon, il y a eu de la pose de nichoir. Et là, on a un projet aussi de rénovation d'une zone humide parce que je suis au bord d'une rivière. Donc là, c'est avec le Conservatoire d'espace naturel de l'Allier. Il y a un ancien bras mort de la rivière qui avait été plus ou moins recreusé il y a une vingtaine d'années, mais ça n'a pas été fait correctement. On va complètement le réouvrir, refaire de la pente douce et puis faire un exclos aussi parce que, comme quoi je ne suis pas parfait, mes brebis pâturent trop ce secteur et ça serait pas mal aussi, période de floraison, les cardamines, les trucs comme ça serait bien que les brebis, elles y soient pas trop quand même.
Nous, ce qu'on propose, c'est que c'est un genre de fédération, même si ça n'a pas la forme juridique, où il y a l'association nationale qui a porté les valeurs, qui a créé l'ASSOS, qui porte aussi beaucoup la communication, mais qui travaille dans les territoires avec des gens dont c'est le métier de faire de la paysannerie et de la biodiversité, et de faire de la paysannerie et de la biodiversité ensemble. Donc on a pensé une organisation régionale, parce que les régions, c'est quand même là où se débloquent actuellement les principaux financements. Et après, on a pensé une organisation locale, donc des groupes locaux qui porteraient la dynamique dans les territoires. Et ce qui est important, c'est que local ne veut pas dire départemental, parce qu'en fait, notamment dans les associations de protection de la nature, mais aussi dans les structures agricoles, les structures sont pensées au niveau départemental. Et pour nous, le département, c'est un peu un mythe, en fait. C'est pas là que se nouent des choses, c'est pas là que se nouent les liens, c'est vraiment le territoire local. Donc ça va passer par des conventionnements entre des organisations régionales, des groupes locaux, qui seront constitués, on verra tout à l'heure, d'associations de protection de la nature, de structures paysannes, de groupes de paysans, de groupes de consommateurs. Donc il y a des citoyens, des citoyennes, il y a des enseignants et des chercheurs, et il y a des paysans et des paysannes. Et après, les triangles que vous voyez, c'est les structures associatives ou paysannes qui ont adhéré à l'association en 2023. Et les points jaunes, c'est les groupes locaux dont je vous parlais. Donc les gros points jaunes, c'est les points qui existent déjà, qui ont déjà signé des conventions avec l'association. Et tous les autres, c'est les choses où on a eu des contacts, des gens qui aimeraient bien faire des groupes ou qui sont en train de monter un groupe et de conventionner. Les points blancs, les petits points blancs, c'est les gens qu'on a repérés à diverses occasions, qui ne sont pas encore dans le réseau, mais qui ont le profil pour y aller.
Vous l'avez compris, Paysans de Nature se propose de fédérer et d'accompagner la création et l'autonomisation de groupes locaux qui favorisent le réensauvagement paysan, qui permettent l'installation de paysans et paysannes de nature, bref, qui prennent soin du vivant biodiversifié sous toutes ses formes. Allons voir un peu comment s'est organisé un de ces groupes locaux, l'Association des fermes paysannes et sauvages, qui compte aujourd'hui 21 fermes.
Donc il y a deux volets un peu dans l'association. Il y a un volet, on va dire, plus technique, qui est plus à destination des paysans eux-mêmes, et un volet qui est plus communication, qui lui est plus pour le grand public, voilà. Au niveau de qu'est-ce qu'on fait pour les paysans, on organise déjà des visites mensuelles de ferme. Ça, c'est un peu la base de l'asso. On se retrouve une fois par mois sur une des fermes du réseau. C'est des visites qui sont très informelles. Le paysan, en gros, l'organise un peu comme il le veut. Ça peut être les week-ends, ça peut être en semaine, ça peut être les gosses, ça peut être... on peut aussi faire... on aime bien inviter aussi des extérieurs, souvent, sur ces visites. Ça, voilà, ça ouvre un petit peu le débat. On s'assure tout le temps qu'il y ait des naturalistes qui soient présents lors de ces visites. Nous, en fait, peut-être la petite subtilité par rapport à Paysans de Nature, c'est qu'à la base, c'était quand même beaucoup des... On était surtout des paysans où, alors, bon, hormis Sébastien Blache et Elsa, qui ont un gros volet naturaliste, enfin, voilà, typiquement, Dimitri et moi, où on a zéro connaissance naturaliste. On était très branchés agroécologie, agronomie, mais en fait, on avait justement, on s'est bien rendu compte qu'il y a un moment, il y avait un gros frein et qu'il fallait aller plus loin. Et en fait, finalement, ce réseau, il répond exactement à ce qui nous manquait, c'était le lien entre des naturalistes et des paysans pour engranger du savoir et comprendre ce qui se passe sous nos pieds, quoi. Donc ça, c'est important lors de ces visites qu'il y ait des naturalistes qui soient présents pour donner leur avis sur la ferme, pour échanger. Et comme on disait, qu'il y ait aussi des copains paysans qui disent, parce que quand, on vit exactement les mêmes choses, mais quand il y a un naturaliste qui va dire, mais tu devrais vraiment faire comme ça, là, t'as le gars qui reçoit, qui dit, ou la paysanne qui reçoit, qui dit « Ouais, non, mais attends, ça fonctionne pas du tout ce que tu me racontes. » Et bah là, il y a le collègue paysan qui va dire « Mais si, moi, tu vois, je pense que tu pourrais faire comme ça, passer derrière, tu mets ta charrue plus haut, tu mets ton truc, voilà. » Lors de ces visites, on fait aussi souvent, là, on est en train de le mettre en place, mais un petit exposé naturaliste. Ça peut venir des naturalistes, mais ça peut aussi être un paysan qui est passionné. Nous, on a Alain, notamment, par exemple, qui est passionné de frelons. Il nous prend la tête avec les frelons en ce moment. Vas-y, fais ton exposé pendant 30 minutes. Parle-nous des frelons. Comme ça, on apprend un peu. On ressort. Là, c'est engorgé de la connaissance. Lors de ces visites aussi, on travaille un thème qui est plutôt annuel. En fait, chaque année, on essaye d'avoir un thème focus sur un sujet. Donc on a différents... On a travaillé les bandes enherbées une année, on a travaillé les reptiles. L'année dernière, on a travaillé sur l'eau. Ça, c'était un gros volet. Donc ça, c'est choisi par l'ensemble des fermes. Donc par exemple, sur l'eau, on a beaucoup travaillé avec Baptiste sur la partie low-tech, ouvrage castor. Mais on a eu aussi Simon Ricard de Permalab qui est intervenu sur tout ce qui est hydrologie régénérative. Donc pareil, là, c'est engranger du savoir, mais après aussi mettre la main à la pâte. Donc concrètement, on peut faire des chantiers collectifs dans les fermes. Nous, on se débrouille aussi tout seul dans nos fermes parce que parfois, en fait, faut être réaliste. Déjà, on n'a pas le temps de faire beaucoup de trucs sur nos fermes, donc aller... Faire dans les fermes des autres, c'est pas toujours évident, mais on fait aussi appel, on s'est beaucoup aidé de la LPO, qui peut aussi nous aider à nous ramener du monde et à nous aider sur ces chantiers-là. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important. Et après, on essaye de dresser un petit bilan. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire sur l'eau, qu'est-ce qui a été fait, voilà. L'année prochaine, c'est les coprophages. Ça a été voté samedi dernier, donc on verra ce que ça fait. Lors de ces visites aussi, on se fait un petit point sur chose vue, chose faite. Ça, c'est important. Ça permet en fait de... dans paysan, il y a aussi toute une dimension sociale, d'échange, de savoir paysan. Donc on dit, moi, ce que j'ai fait sur ma ferme, voilà un peu les problèmes que je rencontre en ce moment. Bon, voilà, c'est un peu les paysans anonymes, quoi. Très important, au quotidien, on a un groupe Signal, donc l'équivalent de WhatsApp. Et ça, c'est un truc qui fuse, qui marche hyper bien. En fait, dès que t'es... Enfin, surtout pour les gens, les vignerons un peu incultes qui connaissent pas grand-chose. Dès qu'on a un champignon qu'on connaît pas, un insecte qu'on n'a jamais vu. Et en fait, c'est fou comme ce fil signal, au bout de... Il a... Alors, d'une, ça nous permet d'acquérir des connaissances, mais aussi, ça a clairement changé complètement notre vision des choses, en fait. Juste maintenant... t'es en train de tailler, t'as le cul par terre, et tu mets la main sur un truc, au lieu d'être là, ah, c'est quoi, ou je sais pas, enfin, tu dis, oh, c'est quoi, c'est bizarre, et tout, je l'ai jamais vu, celui-là, et donc, du coup, tu le prends en photo, tu l'envoies sur le fil signal, tout de suite, t'as des geeks naturalistes qui sont dans le réseau, qui te répondent exactement, avec des noms en latin, et voilà, donc, que tu ne retiens jamais, mais ce qui est bien, c'est quand tu renvoies la photo 6 mois plus tard, on te dit, mais si, là, regarde, tu l'avais déjà envoyé, donc, voilà, et en tout cas, ça, c'est intéressant, voilà, c'est un échange. Donc plus que juste du technique, enfin ce volet technique, il y a aussi toute une dimension, psychologique, comme je disais, de social, de soutien. Et là, c'est peut-être le mot sensible que disait Baptiste, mais on est on est dans des périodes compliquées. Et en fait, c'est aussi ce réseau, il permet aussi ça, quoi. Voilà. Et pour finir, du coup, le volet donc communication de l'asso, donc ça, c'est un peu l'autre gros sujet qu'on essaye de faire, c'est de dire, c'est super de faire des îles, des fermes qui sont des petits îlots, des petites bulles où on élève nos enfants qui courent dans les prairies, et c'est super cool. Mais en fait, le monde, il est plus que ça, il change, et on n'est pas là pour faire... Alors même si nous, on est en Ardèche, on n'est pas là pour faire des communautés isolées dans leur coin. Voilà. On veut être connecté, on veut faire et on veut faire savoir. On veut montrer que notre agriculture est possible, on veut montrer qu'on peut faire d'autres choses. Donc on a une lettre info qu'on envoie régulièrement en disant un peu tout ce qu'on fait sur l'asso, tous les événements. Voilà. On organise beaucoup, grâce à la LPO aussi, des visites sonores sur nos fermes. Donc ça, c'est des visites de fermes qui sont ouvertes au grand public, où on essaye de pas faire de la visite classique, mais d'avoir un... Donc là, on met l'aspect auditif en éveil un petit peu. Donc on s'assoit, on se pose, on écoute, apprendre les chants des oiseaux. Donc parfois, les visites, du coup, elles sont programmées à 7h du matin pour les gens, voilà. On fait également pas mal d'événements partagés. Donc là, derrière, c'est par exemple pour la foire Crocon Nature. C'est une foire locale où on avait un stand ferme paysanne et sauvage. Où on vend nos produits, on promeut nos produits aussi, on est paysans, donc on est quand même là, on est fiers de ce qu'on produit, mais on le fait ensemble, on communique sur ça. Bien sûr, on répond à pas mal de sollicitations de journalistes, radio, papier, enfin voilà. Et on organise aussi des visites, on va dire, plus... particulier sur nos fermes, porte ouverte par exemple. Donc là, quand typiquement la ferme du Grand Laval fait une porte ouverte prochainement, beaucoup de fermes du réseau seront présentes. On met en avant le réseau, on participe à tout ça. Et on reçoit aussi tout le tissu agricole. On serait ravis d'avoir... on reçoit déjà les BTS, les BAC Pro, tout ça, mais pourquoi pas, le groupe de la FNSEA locale, on serait ravis de les recevoir sur nos fermes pour pouvoir échanger.
Alors, juste un petit point sur les statuts, j'y passe rapidement. Je crois que vous avez eu une version imprimée pour certains. On a des fermes membres, donc là, pour l'instant, on en a 21. Celle-là, elle ne paye rien du tout. Et après, on a des membres adhérents. L'adhésion, cette année, est passée à 10 euros. Et d'ailleurs, Jonathan, qui est là-bas tout au fond, si jamais vous voulez adhérer aux fermes paysannes et sauvages, vous allez le voir et il vous note et il vous inscrit. Du coup, il vous inscrit aussi à la lettre... de l'asso. On a les amis, donc ça c'est par exemple Paysans de Nature, les Rondelles au Champ, il y a Agri-Nichoir, il y a les fermes qui n'ont pas le temps ou pas l'énergie, ou comme Terre de Famille par exemple à L'Oriole, qui font partie de nos amis, donc ils sont là, juste c'est nos potes quoi. Et ensuite on a les sympathisants, eux ils payent rien, ils ne sont pas membres actifs ou rien, mais ils reçoivent la lettre de l'asso. Donc pareil, si vous voulez recevoir la lettre de l'ASSO, vous nous faites une petite demande, tout simple. On s'est constitué en CA, donc on a un bureau, et celui-là, on le réunit régulièrement pour avancer sur les décisions certaines qu'on doit prendre. Et on a deux collèges, le collège magasin qui gère le petit point de vente collectif, et le collège ferme qui prend les décisions sur la partie de fonctionnement des fermes, en fait, de comment l'ASSO fonctionne. On a deux adhérents qui font partie du CA et qui sont ni fermes ni voilà, qui sont juste là pour c'est cool. Et on a un comité d'experts. Alors celui-là il est très important. C'est des gens qui rentrent, qui sortent plus ou moins. C'est quand même assez stable, mais c'est surtout des naturalistes. On a Baptiste par exemple qui fait partie du comité d'experts. C'est des gens qu'on va consulter. Parce que en fait, ils ont des points de vue intéressants. Il y a Maxime Zouka, qui est naturaliste, ou Brice Lemaire, qui est aussi par là, qui font partie de ce comité d'experts et en fait, qui apportent à l'asso sur le fonctionnement, les décisions et la base philosophique, par exemple. Et ensuite, on a une multitude de commissions. On a eu une commission statut pour faire les statuts. On a une commission communication et événements. Une commission charte, qui du coup est dissoute maintenant, puisque la charte est finalisée. On avance comme ça. Et chacun, chacune dans l'association peut s'approprier un temps ou plus ou moins long, une partie, une action, etc. Donc chacun est vraiment proactif dans l'assaut. Et le budget, alors on n'a pas de budget. Donc on fonctionne juste avec quelques adhésions, c'est-à-dire genre 800 euros par an. Et là, l'année dernière, il y a une asso qui cessait son activité et qui nous a donné 10 000 euros. Donc, c'est pour ça qu'on a pu aussi payer cette salle, par exemple, avec la LPO. Et en fait, ce petit budget, il nous permet d'acheter, il y a des autocollants, des flyers et tout ça. On a aussi acheté 2 pièges photos qu'on se fait circuler dans les fermes. Et voilà, d'acheter des petits trucs comme ça, du petit matériel. Mais sinon, tout le reste est bénévole, il n'y a pas de salariés. Je fais rapidement parce que on m'a dit que j'avais plus trop le temps. Donc, on a un petit réseau. Alors, comprenez bien que quand on a créé l'asso, il y a des gens de très loin qui sont venus nous solliciter. On était là, bah oui, vas-y, rentre. Et puis, au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'une heure autour de chez nous, c'était beaucoup. Et que, en fait, si vraiment on veut fonctionner avec un groupe soudé, et des gens qui se voient, parce qu'on n'est pas juste un groupe signal, en fait, on est des humains qui ont des interactions, et ben il faut absolument que ces gens-là soient dans dans un périmètre pas trop loin. Donc en gros, c'est une heure autour de Valence, en voiture, et c'est un peu ce qui fonctionne. Du coup, on proposait aux satellites qui sont un peu plus loin de rester dans notre groupe de fermes paysannes et sauvages et de créer un nouveau un peu plus loin et de faire le lien entre les différents groupes. Voilà, c'est une proposition, on pourra en reparler cet après-midi. J'ai pas trop le temps pour vous détailler les étapes d'intégration des nouvelles fermes. Allez sur le site si jamais vous êtes intéressé ou on en rediscute tout à l'heure. Pour nous est important. En fait, on aimerait bien faire une cartographie de l'asso. À terme, se dire qu'on aura un vrai impact sur les dynamiques écologiques du milieu de une heure autour de Valence, parce qu'on aura créé des pas japonais, à terme, des vrais corridors écologiques. On aimerait, nous, c'est un peu la perspective, c'est qu'on aimerait bien densifier, faire quelque chose qui marche, de se dire que, en fait, les hirondelles, elles viendront quand même plus vite s'installer chez nous si elles sont déjà présentes à côté. Ça, c'est donc un de nos objectifs. On va voir si on arrive à le faire. Et puis un jour, on aimerait bien qu'il y ait un réseau français de fermes sauvages, de paysans de nature, de fermes de tous les noms, et qu'on ait un vrai poids politique aussi, et qu'on puisse dire franchement, ce qui se passe en ce moment, qu'on puisse dire qu'on ne soit plus les écolos, le petit caillou dans la chaussure, mais qu'on devienne un vrai rocher dans la godasse, quoi. Et qu'on ait un poids, qu'on nous entende, qu'on redevienne crédible sur le fait que, en fait, nous aussi, on nourrit le monde. Et nous aussi, on a cette capacité-là.
Deux questions sont posées à la fin de l'intervention d'Elsa et Laure. Quelle surface représentent les fermes paysannes et sauvages aujourd'hui ? Et est-ce que des fermes commercialisant leurs produits en circuit long sont bienvenues dans le réseau ?
Alors, en termes de surface, je ne saurais pas, parce que nous, par exemple, on a 50 hectares, et puis il y a Lidvine qui fait des fleurs à couper, et elle a 3000 mètres carrés. Donc, c'est vraiment divers. Après, pour l'instant, on est 21 fermes avec des profils très différents et des surfaces très différentes. Mais c'est ce qu'on aimerait faire, en fait, comptabiliser. Moi, ce que j'aimerais faire aussi, c'est calculer la production annuelle. Par exemple, Laure et Dimitri, ils font tant de litres de vin par an, tant de kilos de fromage par an, etc. Lidvine, elle fait, ça se mange pas les fleurs, mais c'est quand même important, tant de fleurs à couper par an. Et en fait, avoir une espèce de visuel pour communiquer, pour crédibiliser encore une fois. Nous, ce qui est important, c'est que le but, c'est d'avoir une production agricole, d'abord. Donc, et c'est pour ça que dans nos étapes d'intégration, il y a pour rentrer dans l'asso, il faut être affilié à la MSA. Donc, on ne veut pas, en gros, qu'il y ait des jardiniers qui font 3 pommes le dimanche, qui intègrent l'asso parce que ça en va de la crédibilité de ce que nous, on propose, en fait. Donc, on est des paysans et des paysannes. En fait, moi, je serais ravie que mes voisins céréaliers me sollicitent pour rentrer dans l'asso. Sincèrement, je me dis, mais ça serait... Enfin, de toute façon, c'est toujours les publics qu'on touche le moins. Et le fait d'être en circuit long, on en a un petit peu qui sont en COP. Donc, non, c'est chouette. En fait, je pense que tout le monde est bienvenu. C'est mon point de vue. C'est des choses après qu'on discute avec tout le monde.
Dans les Hautes-Corbières, Mathieu Vasselin concilie son premier métier d'ornithologue avec celui d'éleveur. Depuis 14 ans, il pratique une agriculture paysanne qui cohabite avec le monde sauvage. Il explique comment est né de manière assez naturelle un petit groupe ultra-local de paysans naturalistes qui prend soin, en tout, de 500 hectares.
Moi, je suis naturaliste depuis longtemps. J'ai travaillé 12 ans à la LPO. On a décidé, surtout après un long voyage aux confins de l'Asie centrale, où au retour on s'est dit qu'il nous faut vraiment des grands espaces et du très très sauvage. On avait fait un cahier des charges et on s'est retrouvé à s'installer dans les Hautes-Corbières, dans l'Aude, donc en zone de Piémont, un des endroits... on vit tous dans l'endroit le plus beau de France, donc c'est très bien. On s'est d'abord installé avec ma compagne Anaïque. On est sur une ferme en élevage caprin, en transformation fromagère, sous mention Nature et Progrès. Du coup, Mel s'est installée à côté de chez nous en élevage de vaches allaitantes, de vaches laitières, pardon. Elle élève des ferrandaises et elle fait du fromage. On mutualise et on partage notre fromagerie avec Maëlle. Comme c'était pas assez suffisant, on s'est dit que ce serait bien qu'il y ait d'autres potes et d'autres naturalistes qui s'installent. Donc on a fait venir des copains de Vendée. Qui ont acheté une ferme à côté de la nôtre. Donc on les a aidés à acheter cette ferme en créant un GFA pour pouvoir apporter du pognon et pour pouvoir agrandir le réseau. Donc on a Étienne et Cécile qui sont installés. On a à peu près 500 hectares d'un seul tenant qu'on gère à la paysan de nature. On fait du paysan de nature très facile. Quand on est dans la plaine de Valence ou qu'on est dans une zone de marais irriguée ou je sais pas quoi, nous on est dans des milieux qui sont déjà à une forte, très très forte naturalité, et c'est plutôt à nous d'essayer de trouver notre place sans altérer cette naturalité plutôt que du coup. C'est comment au jour le jour on travaille nos pratiques pour qu'elles soient en maximum en adéquation avec le vivant qui nous accueille. Et du coup, et d'où l'intérêt d'être en collectif, parce que donc, nous on partage du matériel, on partage beaucoup de temps de travail, on fait plein de choses en commun au sein de ces quatre fermes, des travaux, les foins et tout ça. Et du coup, c'est cette dimension-là, elle est hyper intéressante. Mais en gros, c'est ça, la conduite. Alors après, voilà, on ne peut pas s'empêcher de faire des bricoles de nichoirs, de gîtes à les arrosseler, de trucs comme ça. Mais on est vraiment dans des endroits qui sont déjà très, très, très sauvages. Je vous dis qu'on est des cancres parce qu'en fait, on n'est pas encore conventionné. On est dans le bouquin et tout ça, mais on procrastine depuis très longtemps le... local. Alors nous, on est parti pour faire d'abord un groupe local dans les Hautes-Corbières où il y a déjà cette dynamique. Mais à cette formation, il y avait 15 participants et ces 15 participants, il y avait notamment des paysans qui venaient d'autres secteurs du département dans lequel il y a aussi des dynamiques. Donc tout ça laisse à penser qu'à terme, on va pouvoir développer plusieurs groupes locaux. Mais déjà, il faut commencer par un. La procrastination, elle était liée aussi au fait de ce portage, de trouver une structure, une asso de protection de la nature et une autre structure qui puisse porter le conventionnement. On a dans l'eau de la chance d'avoir toutes les entités de l'agriculture paysanne qui sont fédérées au sein d'une coopérative qui est la SIC Maison Paysanne de l'Aude. C'est que ce collectif-là, en fait, enfin, on en parlait avec les uns et les autres, c'est hyper motivant et c'est enrichissant. Et par rapport à ce que disait Baptiste ce matin, là, que le monde est en train de s'assombrir, je suis bien d'accord, mais ça apporte un peu de lumière là, dans la pénombre et c'est, je pense, comme ça qu'on va réussir à franchir ce vilain cap qui nous attend, quoi.
Saviez-vous qu'un couple de mésanges peut consommer jusqu'à 18 000 insectes par cycle de ponte? Qu'une chauve-souris peut consommer jusqu'à 3 000 insectes en une seule nuit? C'est ce que l'on peut lire sur le site d'Agri Nichoir, l'entreprise fondée par Brice Lemaire, le naturaliste qui a inventé son métier, nichoiriste. Il est aussi cofondateur de Réensauvager la ferme. Il revient ici sur les débuts du projet et notamment comment est venue cette idée d'installer énormément de nichoirs sur la ferme du Grand Laval. Maxime Zucca, naturaliste et coordinateur scientifique de Réensauvager la ferme, présente comment les effets du réensauvagement ont été mesurés, une source d'inspiration pour les futurs groupes qui se créeront, car oui, il existe sûrement des tas de fermes en France qui font, sans le savoir, du réensauvagement, où la biodiversité explose, mais qui ne le mesure pas.
Moi, c'est Brice, je suis président de l'association Réensauvager la ferme. Donc, Réensauvager la ferme, c'est une association qui est basée autour de la ferme du Grand Laval, qui est un peu notre patient zéro à nous, qui nous ont contaminés un petit peu dans cette envie d'aller plus loin sur le vivant dans les fermes, et comment est-ce qu'on peut faire plus. Alors, j'ai la mauvaise tâche de présenter une ferme qui n'est pas la mienne, puisque moi je suis nichoiriste, et donc je pourrais présenter mon métier unique au monde. La ferme du Grand Laval, c'est une ferme dans la plaine de Valence, une ferme paysanne et sauvage, où on a la chance d'avoir une agricultrice et un agriculteur qui sont là, évidemment, et qui sont partis d'une ferme qui existait, mais qu'ils ont choisi de transformer. Une ferme au bord du Vercors, mais somme toute assez classique, avec de la grande culture autour, encore un petit peu de bocage comparé à plein d'endroits en France, mais voilà. Ces parcelles-là, c'était, pour faire simple, des grandes parcelles de maïs. Et donc, ils se sont dit, voilà, on va essayer de complexifier le milieu dans tous les sens. Donc, au sens agronomique, donc ce qu'on va produire, on va diversifier les productions, donc diversité de grandes cultures, diversité, on va mettre du verger, on va pas mettre qu'un seul type d'élevage, on va mettre deux types d'élevage. Et puis dans ce type d'élevage-là, on va mettre plusieurs espèces, enfin plusieurs races. Et puis on va, voilà, et on va complexifier. Et en plus, on va pas s'arrêter là, on va complexifier aussi sur les à côté. Et donc on va rajouter des haies, tout ça, tout ce que vous connaissez. C'est un peu le truc, c'est pas le dogme classique. En fait, on est plutôt dans un dogme a priori qui est faisons simple pour être efficace. Eh bien non, en fait, il y a moyen d'être très efficace au sens du vivant à travers la complexité. La deuxième chance de tout ça, en plus d'avoir une très belle intuition, c'était qu'ils avaient des passifs naturalistes que vous connaissez et que du coup, ils ont regardé et ils ont pu quantifier. C'est le petit truc qui fait, à mon avis, la différence parmi plein d'autres choses. Et ils ont commencé à compter les oiseaux. Sébastien, évidemment, a compté les oiseaux dès le début. Avant d'arriver, il avait déjà compté les oiseaux. Et puis après, il a compté. Pour moi, il y a eu un petit moment fondateur de notre association. On était avec Baptiste et Sébastien. Et on avait fait plein de nichoirs. On avait mis plein de nichoirs. Bon, et puis on en avait re-remis. Et puis en improvisant à chaque fois des trucs. Bon, qu'est-ce qu'on va s'inventer? À chaque fois, ça répondait plus ou différemment et tout ça. Puis à un moment, on s'est dit, mais... OK, maintenant, c'est quoi la limite, en fait? Si on pousse les curseurs, et je me souviens de cette phrase où on s'était dit, si on pousse le curseur, ça s'arrête tout, le vivant. À un moment, qui va venir, quoi? Et donc, on s'est dit, OK, ben là, on va essayer de se donner un cadre. Alors, la chance, c'est qu'on avait en plus un cadre théorique qui nous a permis de nous poser sur nos réflexions et tout ça. Et donc, je remercie aussi Baptiste pour ça. On s'est dit, alors si on met maintenant une mare, c'est cool. Si on en met une à l'hectare, ça veut dire on met 20 mares. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on peut le faire? Comment est-ce qu'on le fait? Et allons-y. Et en gros, l'association, c'est un peu monté comme ça, ça a démarré comme ça.
Donc, nous est venue l'idée, l'envie d'objectiver, de suivre. Qu'est-ce que ça générait, tout ça? Ces aménagements, donc Brice en a parlé, au-delà des mares et des nichoirs, il y a aussi eu des hibernaculums, comme Sabine en a parlé avant, divers tas de bois et autres dispositifs très très faciles à mettre en œuvre. Cette année, quelque chose de plus ambitieux qui a eu lieu sur la ferme, ça a été un cours d'eau qui était, enfin un fossé qui était enterré, qui avait pour vocation l'irrigation dans les années 60-70, je crois. Et qui était buisé. Et lorsque l'agglomération de Valence-Romans est venue pour faire des mares dans le cadre du marathon de la biodiversité, on leur a demandé s'ils acceptaient aussi, ils ont accepté de nous remettre à jour ce cours d'eau. Et vous voyez la photo que ça a donnée tout en haut, quelques jours après la réouverture. Donc on a quelque chose qui n'est pas encore complètement abouti. Et il y avait très peu de débit. Et là, avec les idées développées par Baptiste en lien avec ce qui se fait beaucoup aux États-Unis, il y a eu parmi comme ça tout le panel d'expérimentation qu'on tente au Grand Laval et dans d'autres fermes du réseau Fermes Paysannes et Sauvages, l'idée d'essayer d'élargir ce cours d'eau, de le complexifier en mimant des processus basés sur les castors, les barrages de castors. Donc là, c'est ce que vous voyez là. Donc tous ces dispositifs, je ne vais pas m'étendre sur celui-là parce qu'il y a un livre qui va sortir en septembre, je vous fais un petit teasing. Mais l'idée ensuite, c'est évidemment, tous ces dispositifs, qu'est-ce qu'ils procurent, qu'est-ce qu'ils amènent en termes d'espèces. Comme à l'Hirondelle au Champ, on met évidemment des pièges photos. Donc on a tout un réseau de pièges photos et c'est effectivement, enfin tout un réseau, on en a trois, mais c'est important. Quatre, mais j'en ai fait tomber un dans l'eau. C'est important quand même de pouvoir aussi avoir des choses à raconter. Moi, j'ai pas mis de film, mais on a, voilà, là on a cette rivière qui est réouverte et en quelques mois, on a des bécassines, des chevaliers, gambettes, cublans, sylvains et même une cigogne noire qui fait halte. Ça montre l'efficacité et l'enthousiasme. En tout cas, ça nous rend heureux, quoi. Il y a une partie qui est basée sur des protocoles et une partie qui est basée vraiment sur la recherche de tous les taxons. Parce qu'on s'est dit, on va essayer de savoir qu'est-ce qu'il peut y avoir, ce que disait Brice, hein, comme ensemble d'espèces possibles vivantes sur un territoire agricole revitalisé. Et donc, le premier volet, il permet quand même de ne pas être juste dans la liste d'espèces, mais de comprendre, d'avoir des comparaisons avec ce qui se passe ailleurs en France, des comparaisons au sein de la ferme entre différentes parcelles. Et ce qui est assez dingue, ce qu'on remarque, ce qui est fou à chaque fois, c'est la rapidité avec laquelle ça vient. Et donc là, il y avait 3-4 mares avant, il y a 10 mares qui ont été creusées en 2022, 10 nouvelles mares à peu près en 2023. Et bien, résultat, là où il y avait un petit peu de couleuvre vipérine avant, maintenant, elles sont en train de coloniser. Et l'an dernier, vous voyez, là, sur les 17 hectares de parcelles historiques, on va dire, les anciennes, et là, ce que je vous ai mis en haut, c'est le nombre de serpents par transecte, par passage, pas par transecte. On n'avait qu'une couleuvre verte et jaune par passage et aucune vipérine. Elles étaient présentes, mais on ne les captait pas pendant les protocoles STERF parce que c'est un échantillonnage. En 2023, alors il s'est passé quelque chose, clairement, peut-être dans la dynamique des populations de couleuvres en plus, mais l'explosion des mares a généré une explosion des grenouilles. Il y a des grenouilles partout, et du coup, la couleuvre vipérine augmente autant. Et la verte et jaune, c'est aussi qu'on a mis en place beaucoup de plaques reptiles, donc on les détecte plus, et elles ont le temps de s'habituer. Mais on en voit quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sur la ferme, donc c'est très rapide. Dès qu'il y a une population existante, même petite, si les conditions sont là, elles peuvent se développer très, très vite. En bas, je vous ai mis trois comparaisons. C'est la moyenne d'abondance sur les transectes dans la ferme historique des 17 ans, donc c'est la partie en bleu, et en comparant avec les parties qui ont été reprises récemment. Donc vous voyez que sur les parties qui étaient plus récemment intensives, les serpents ne sont pas encore beaucoup revenus. Un autre exemple de ce qu'on fait en termes de suivi, c'est le suivi des papillons en France. Et donc on voit là, par exemple, la quantité d'espèces de papillons en bleu, c'est sur la partie ancienne de la ferme. En rouge, c'est sur les parties qui ont été acquises en 2022. Donc vous voyez une très nette différence en termes de richesse en papillons. Et là, c'est comparé avec le reste de la France. Et là, si vous regardez le graphique vert clair au milieu, c'est la ferme historique du Grand Laval. Et quand on compare avec la moyenne française, qui est en bleu dans le sud-est de la France et en jaune dans toutes les parcelles agricoles de France, avec les mêmes protocoles, on est bien au-dessus. Donc ça donne quand même, ça permet de se contextualiser, de se dire, bon, a priori, on va dans la bonne direction. Pareil pour les populations d'oiseaux. Là, on a la chance avec le fait que Seb soit ornitho. Et donc, quand il a repris la ferme à son grand-père en 2006, il a fait des comptages exhaustifs de tous les couples d'oiseaux nicheurs. Et donc, on les a reproduits avec le même type de pression d'échantillonnage en 2022 et 2023. Et vous voyez quand même l'explosion. Alors déjà, une augmentation assez nette du nombre d'espèces nicheuses sur la ferme. Mais ce qui est plus spectaculaire, c'est que l'abondance globale des oiseaux nicheurs sur la même surface, on n'est que sur les 17 hectares historiques, a plus que doublé. Et alors, ce qui a augmenté, c'est notamment des espèces d'oiseaux des milieux agricoles qui sont en déclin. On a montré que les espèces qui déclinent le plus en France sont celles qu'on favorise le plus au Grand Laval. Donc, on a quand même une piste pour enrayer ce déclin des oiseaux communs des milieux agricoles dont on parle beaucoup. Ce qui a aussi beaucoup bougé, c'est les oiseaux des haies, notamment le rossignol ou la fauvette à tête noire, qui ne sont pas des oiseaux rares, qui ne sont pas nécessairement en déclin, mais on a doublé, triplé leur densité simplement en améliorant le réseau de haies. Et puis il y a les oiseaux qui ont été favorisés par les nichoirs de notre nichoiriste, qui sont le moineau et la maison charbonnière, qui ont explosé littéralement pour le coup. Et puis des oiseaux liés aux zones humides, parce qu'il y a eu aussi cette création de zones humides que vous avez vues, d'autres petits détournements de rivières temporaires pour faire aussi favoriser des prairies humides. Donc là, je vous ai mis la cisticole, mais la bouscarle, il y en a d'autres. Autant le protocole tout action, on fait les inventaires tout action, on fait venir des spécialistes de la France entière. Petit point budget, comment ça se passe? Parce qu'il y a beaucoup de fermes, j'imagine, qui se demandent, on aimerait bien faire ça. Là, nous, on a créé donc une association qui est complètement indépendante de la ferme du Grand Laval. Et pour ça, on va du coup solliciter des financements auprès de fondations privées. On pourrait aussi, là, on va aller solliciter du financement probablement auprès du Plan National d'Action des Pollinisateurs Sauvages, voilà, pour financer ce travail qui n'est pas gratuit, forcément, ça prend beaucoup de temps. Donc, on ne peut pas le mettre en place dans n'importe quel contexte. Il faut quand même s'en donner les moyens. Mais par contre, on arrive à faire venir des gens d'un peu partout qu'on héberge et qu'on nourrit, mais qui viennent gratuitement. Des spécialistes sur un ou deux thèmes et qui sont ravis de venir aider. Et pour ça, il y a eu aussi la nécessité d'installer un outil de saisie en ligne. C'est-à-dire que si vous pouvez faire plein d'observations de terrain, si vous n'avez pas l'infrastructure pour la structurer, ça sera assez rapidement perdu. Et c'est souvent ce qui fait défaut dans les grands inventaires. Donc là, on a repris le système Géonature, qui est un logiciel en open source, qu'on a adapté à la ferme, qui s'appelle Géoferme, grâce à l'aide d'un informaticien ami, qu'on a quand même payé pour ça. Et l'idée, d'ailleurs, ça serait, on en parlera peut-être, en tout cas, ça fait partie des idées pour 2024 et années suivantes, c'est de voir comment est-ce qu'on peut élargir cet outil de saisie et de restitution des connaissances naturalistes à d'autres fermes qu'il voudrait. Parce que réensauvager la ferme, on n'a pas forcément vocation à s'élargir trop, mais par contre, on pourrait mettre nos outils à disposition. On en est à 2158 espèces. Bon, c'est un petit chiffre comme ça, c'est rigolo, mais ça montre juste l'étendue. Et on trouve des espèces qui ne sont pas décrites dans l'inventaire national du patrimoine naturel. Donc c'est aussi ça, c'est qu'en faisant venir des spécialistes dans la zone la plus intensive, une des plus intensives de France, eh ben on trouve des espèces inconnues, a priori, du patrimoine naturel français. Alors on a trouvé une mouche cet hiver, un petit éphyridé qui n'est pas connu en France. Le pari, c'est que la diversité d'organismes, la diversité d'espèces permet aussi de limiter l'abondance de certaines espèces. Ce qui se passe souvent dans les grandes cultures, c'est qu'on met un garde-manger à disposition des espèces qui sont spécialisées sur ce même garde-manger, et par contre, il n'y a plus les habitats disponibles pour toutes les espèces à même de les contrôler. Et là, au Grand Laval, ce qu'on constate, c'est que la maximisation du nombre d'espèces, en tout cas, rend les pressions potentielles des ravageurs plus faibles. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, mais ça veut dire qu'elles sont mieux contrôlées. On voit bien quand on fait des captures de papillons de nuit dans le verger, il y a 100 espèces et on n'est pas sur une dominance de carpocaps. Il y en a par exemple, mais il y en a, voilà, c'est un peu écrasé. C'est pas du rewilding au sens anglo-saxon dans les fermes qui ont été rendues à la nature. Là, c'est vraiment concilier production agricole et réensauvagement sur les marges, laisser de la place aux vivants. Et c'est pour ça que nous, on aime bien parler maintenant de réensauvagement paysan. Et donc, il y a parfois cette difficulté à comprendre la place du mot sauvage dans ce vocable qui paraît antinomique avec l'agriculture. Et là, on essaye de montrer que paysannerie et réensauvagement sont complètement compatibles. On a aussi comme envie donc, de poursuivre les inventaires tout taxon. J'ai cité quelques-uns en particulier. On travaille beaucoup sur l'ADN du sol en ce moment. On a travaillé avec Spygen, là, on va travailler avec l'équipe de Lionel Ranjard à Dijon, spécifiquement sur les bactéries et les champignons pour aussi mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans nos sols et comment ça se comporte par rapport au reste de la France. Notre stagiaire de l'an dernier va probablement, si on obtient le financement, faire une thèse qui va s'étendre à plusieurs fermes du réseau Fermes Paysannes et Sauvages. Et puis, on fait aussi des études, on met aussi en place des études scientifiques, comme le suivi télémétrique des tourterelles des bois. Et puis, le dernier point, c'est qu'on fait des rencontres chaque année entre paysans et naturalistes. L'an dernier, elles étaient fin juin, et cette année, elles seront fin août, aussi pour faire varier les périodes d'inventaire. C'est un super moment, on fait plein de rencontres et plein d'observations, donc venez. Voilà.
Et voilà, c'est déjà la fin de cette deuxième partie. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons des exemples de structures qui accompagnent les fermes dans le réensauvagement, on évoquera la question du financement de ces projets, ou encore comment réensauvager une terre quand on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, soit parce qu'on est locataire des terres, ou juste parce qu'il est difficile de faire confiance aux politiques publiques dans la régularité de leur soutien. On parlera aussi de l'installation des paysans réensauvagés. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont accepté que je les enregistre pour cet épisode, et aussi les oiseaux du bocage breton qui ont prêté leur chant pour embellir ce montage, ainsi que les personnes qui ont soutenu mon travail sur Tipeee le mois dernier. Aurélien, Stella, Jean-Luc, Sylvain, Jean-Yves et Maëva. Vous trouverez en description de l'épisode et dans ma newsletter Le Mycélien des ressources pour approfondir les sujets abordés dans cet épisode. Alors, comment vous sentez-vous après avoir écouté cet épisode ? Je vous invite à prendre juste un petit moment pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous souhaitez m'encourager à continuer à développer mon travail, vous pouvez me soutenir sur mon Tipeee Agroécologie Voyageuse. Une autre manière de me soutenir est de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi partager cet épisode à 3 personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet et suivre le podcast Agroécologie Voyageuse sur Instagram. Si vous souhaitez être tenu informé de la sortie des prochains épisodes, je vous invite à vous inscrire à ma lettre d'inspiration agroécologique, le Mycélien. Tous les liens sont dans la description du podcast. Prenez bien soin de vous et surtout, n'oubliez pas, ne soyez pas expert, soyez vers de terre.